Merci bien. J'ai quelque peu changé le titre de ma conférence, mais pas le contenu. Colère et repentir divin, ils ne sont pas très présents dans les deux livres des chroniques sur lesquels je base essentiellement ma conférence. Ce qui domine dans ce commentaire sur les livres de Samuel et Roi, c'est un thème apparenté, à savoir le dogme de la rétribution. D'après le chroniste, en principe, chaque péché est sanctionné et l'homme qui va mal a forcément commis un péché. Par opposition, cela vaut également pour les bienfaits. Quiconque agit bien envers Dieu est rémunéré. Les bons rois sont riches et construisent beaucoup. Ce dogme que nous appelons dogme de la rétribution est omniprésent dans les deux livres des chroniques. En principe, il pourrait aller de pair, non pas avec le repentir divin, mais avec la colère divine qui pourrait même prendre une place centrale chez le chroniste. Un roi prenant Manassé commet d'énormes péchés. Dieu réagit alors en s'enflammant de colère dans un premier temps du moins. Or, à ma grande surprise, la colère divine ne joue qu'un rôle secondaire chez le chroniste, et en plus, chez lui, il ne s'agit pas d'une colère chaude, mais d'une colère plutôt froide. En introduisant les termes chaud et froid, je reprends des termes employés par Lévi-Strauss qui opposent des sociétés dites chaudes et des sociétés dites froides. Le journaliste allemand Safranski a repris ces termes en leur donnant une nouvelle signification. Il les applique aux seules religions, plus particulièrement à l'islam, religion chaude, et à la religion chrétienne, froide dans les pays de l'Ouest au moins. À mon avis, les termes chaud et froid sont également le plus à même de caractériser une différence en ce qui concerne l'emploi du terme « colère divine ». Dans l'Ancien Testament, beaucoup d'attestations de cette expression doivent être caractérisées de froide. Les textes y relatifs parlent de la colère divine, sans pour autant la lier à des manifestations d'humeur concrète. La colère divine n'est pas forcément liée à un Dieu enragé, elle est objective et non subjective. La colère divine chaude, on la trouve ailleurs, entre autres dans l'épopée de la descente d'Inanna d'Ishtar dans l'enfer. Lorsque Ereshkigal apprit la nouvelle de la venue de sa sœur Inanna, elle se frappa les cuisses de rage et elle se mordit les lèvres de dépit. C'est ce que nous apprenons dans la version sumérienne de l'épopée et dans la version akkadienne, il est écrit entre autres qu'à l'arrivée de sa sœur, le visage d'Ereshkigal devint jaune comme l'entame d'un tamari et que ses lèvres devinrent noires comme la marge d'une cuve de bière. Presque rien de tel ou de comparable dans l'Ancien Testament et encore moins dans les deux livres des chroniques. Ils sont extrêmement économes, parcimonieux en ce qui concerne l'emploi d'un langage métaphorique. Les anthropomorphismes et les anthropoptismes chauds s'y font rares. Ce point mérite d'être relevé puisque trop souvent le langage de l'Ancien Testament est qualifié d'extrêmement anthropomorphe et de ce fait choquant, ce qui n'est absolument pas le cas. Et les anthropomorphismes et les anthropopathismes dont se sert le chroniste sont pour la plupart des anthropomorphismes froids. Retenons donc l'observation suivante, et que je ne peux étayer de manière détaillée. Le langage théologique du chroniste, ses énoncés sont froids, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que la religion qu'il prône et défend soit froide. Bien au contraire. Ces remarques préliminaires étant faites, j'essayerai de comprendre la place que prend la colère chez le chroniste dans le cadre de sa théologie de rétribution. En même temps, je répondrai à la question, est-ce qu'il y a une place pour le repentir divin chez le chroniste? Je le répète, dans les chroniques, tout péché entraîne une punition. Personne ne doit payer pour les fautes de ses ancêtres et personne ne profite de leurs bienfaits non plus. Dans un premier temps, je vais vous présenter les différentes manières dont le chroniste réalise le dogme de la rétribution. C'est seulement à partir de cette présentation que nous pouvons déterminer la place exacte que la colère divine prend dans son œuvre. Première réalisation, péché-punition, juxtaposition sans lien. Dans certains cas, le chroniste note le péché et puis la punition, sans établir un rapport explicite entre eux, bien qu'ils soient des plus évidents. Jean prend comme exemple 2 Chroniques 36. Joachim régna 3 mois et 10 jours à Jérusalem. Il fit ce qui déplaît à Yahvé. Au retour de l'année, le roi Nabucodonosor l'envoya chercher et le fit conduire à Babylone avec le mobilier précieux du temple de Yahvé. Là, le chroniste reprend sa forlague, sa source, 2 Rois 24. Il n'éprouve aucun besoin d'établir un lien explicite entre péché et punition. Un deuxième exemple, plus évident encore. Ouzias pénètre dans le temple, ce qui lui est strictement interdit. Arrive donc alors la chose suivante. Ouzias, tenant dans ses mains l'encensoir à parfum, s'emporta. Mais alors qu'il s'emporta contre les prêtres, la lèpre bourgeonna sur son front, en présence des prêtres dans le temple de Yahvé, près de l'autel des parfums. Deuxième réalisation, péché, punition, exécuté par Yahvé. Dans cette deuxième réalisation, le lien est explicitement exprimé. Un seul exemple, Achaz ne fit pas ce qui est agréable à Yahvé. Yahvé, son Dieu, le livra aux mains du roi des Araméens. Troisième réalisation, péché, punition, et puis une seconde motivation de la punition. À titre d'exemple, je cite 2 Chroniques 12. Alors que sa royauté s'était établie et affermie, Roboam abandonna la loi de Yahvé et tout Israël avec lui. La 5e année du règne de Roboam, le roi d'Égypte, Sheshonk, marcha contre Jérusalem, car elle avait été infidèle à Yahvé. Le passage marqué en rouge ne se trouve pas en 1 Rois 14, le texte qui forme la source de 2 Chroniques 12. Manifestement, le chroniste tenait à ce que la punition soit bien motivée. Quatrième réalisation, punition, péché et motivation. Je cite un exemple contenant un terme clé du chroniste, pardonnez la mauvaise police, à savoir Ma'al, prévarication. En 2 Chroniques 9, 1, nous lisons « Tous les Israélites furent répartis par groupes et se trouvaient inscrits sur le livre des rois d'Israël et du Juda quand ils furent déportés à Babylone à cause de leur prévarication, Be'ma'alam. » Cinquième réalisation, Yahvé se sert d'un agent ou d'agents pour punir les coupables. Un terme clé employé dans ce contexte est Ruach, l'esprit. À titre d'exemple, je cite 2 Chroniques 21. Yahvé excita contre Joram l'animosité et Ruach des Philistins et des Arabes voisins des Couchites. Ils attaquèrent Juda. Jusqu'à présent, j'ai présenté quelques possibilités, les possibilités principales quant à la manière de mettre en rapport péché et punition. Ce qui est intéressant, c'est qu'il existe des manières très différentes de le faire. Ce qui dit, c'est l'existence d'un tel lien en tant que tel qui importe et non pas sa réalisation exacte. Jusqu'à présent, à ma connaissance, ce fait n'a pas encore été relevé à sa juste valeur. Or, le chroniste a également recours à la notion de la colère divine d'une manière bien propre à lui. Bien évidemment, il reprend quelques versets de ses sources en Samuel et Roi. Mais ce qui intéresse bien plus ici, ce sont les attestations que le chroniste a changées et surtout celles qui font partie de son Sondergut, des passages propres à lui. Je commence par le point le plus important et la phrase « Vayichar afyachveh » et la colère du Seigneur s'enflammer. Cette phrase n'est attestée qu'une seule fois dans le Sondergut des deux livres des chroniques. Je la cite dans son contexte. Une fois rentré de sa campagne victorieuse contre les Édomites, Amasia introduisit les dieux des fils de Séir, en fit ses dieux, se prosterna devant eux et les encensa. La colère de Yahvé s'enflamma, Vayichar afyachveh contre Amasias. Il lui envoya un prophète qui lui dit, « Pourquoi recherches-tu les dieux de ce peuple qui n'ont pas pu le sauver de ta main ?» Ce qui frappe dans ces deux versets, c'est que la colère divine n'est pas suivie d'une punition, mais d'une remontrance de la part d'un prophète. Est-ce que Dieu ressemblerait à un homme qui se racle la gorge, mais qui ne parle pas ? Un petit peu, en effet. La colère divine ici équivaut presque à une invitation très sérieuse adressée à Amasias de changer de comportement. Les autres attestations de la colère divine qui sont propres aux chronistes et qui ne se trouvent donc pas dans ces sources ne parlent pas de la colère divine qui s'enflamme, mais constatent que la colère divine est là, ou bien ces attestations invitent les Israélites à tout faire pour que l'ardeur de la colère divine se détourne d'eux. Autrement dit, la colère divine est bien là, mais sans qu'elle se soit d'abord enflammée. Cette différence peut paraître minime, anodine, à nos yeux, mais elle ne l'est pas pour le chroniste. En formulant de la manière décrite, le chroniste évite un anthropopathisme. En règle générale, il ne les apprécie guère, et cela veut également pour la colère divine. Il se sert de cette expression, mais le plus souvent, la colère ne se manifeste pas, de sorte à être captée, mais est sujet d'une réflexion théorique. Et la repentance, le repentir divin. En principe, le repentir divin est en opposition flagrante avec le dogme de la rétribution directe. Dès lors, il ne faut pas s'étonner que la racine Nacham, Nifal, se repentir, n'apparaît qu'une seule fois chez le chroniste et dans un texte repris de Samuel qui raconte le dénombrement du peuple, action opposée à la volonté divine. David, qui a cédé à l'incitation de Satan de dénombrer le peuple, peut choisir entre trois punitions. Et une famine, une guerre et la peste. Préférant tomber entre les mains de Dieu plutôt qu'entre les mains des hommes, il choisit la peste. Et je me permets de citer verbatim la suite. Yahvé envoyait donc la peste en Israël et parmi les Israélites, 70 000 hommes tombèrent. Puis Dieu envoyait l'ange vers Jérusalem pour l'exterminer. Mais au moment de l'exterminer, Yahvé regarda et se repentir de ce mal. Vayinachem al-hara'a. Vayinachem al-hara'a. Et il dit à l'ange exterminateur, « Assez, retire ta main. » Le chroniste change quelque peu le texte repris de Samuel, mais non pas en ce qui concerne son aspect principal, le repentir divin. Exclu de l'éliminer du récit, bien qu'il démonte la notion de la responsabilité individuelle si chère aux chronistes. D'ailleurs, elle est déjà présente dans la version de Samuel, où nous lisons « Quand David vit l'ange qui frappait le peuple, il dit à Yahvé, c'est moi qui ai commis le mal, mais ceux-là, c'est le troupeau qu'ont-il fait, que ta main s'appesantisse donc sur moi et sur ma famille. » Cet énoncé, le chroniste le reprend tout en le renforçant. « N'est-ce pas moi qui ai ordonné de recenser le peuple ? N'est-ce pas moi qui ai péché et qui ai commis le mal ? Mais ceux-là, c'est le troupeau qu'ont-il fait. Yahvé, mon Dieu, que ta main s'appesantisse donc sur moi et sur ma famille, mais que ton peuple échappe au fléau. » Par les additions que j'ai marquées en rouge, David met en exergue la position du chroniste quant à la responsabilité individuelle, position à laquelle il tient énormément, et par là même, il dit en principe que Dieu, en se repentant un peu tard, il faut l'avouer, a fait ce qu'il aurait dû faire de toute manière, ne punir que les responsables. Repentir, il y a donc bien eu, mais repentir qui équivaut à, en quelque sorte à justice, ce n'est pas tout à fait clair. L'auteur de 2 Samuel 24 le savait déjà, et le chroniste met un accent très fort sur cet aspect. Dieu, dans les deux livres des chroniques, ne se repent pas, mais il a pitié, ou plutôt, il fait preuve de bonté, de grâce, autrement dit, il donne plus qu'il ne devrait donner. Cela est particulièrement évident dans le cas de Josias, le roi le plus pieux qui ait jamais vécu. Il est mort sur le champ de bataille, donc il a dû commettre un péché. Ce péché, c'est de ne pas avoir écouté ce que lui dit Néco au nom, littéralement, de la bouche de Dieu. Mais puisque Josias était le fidèle exemplaire, Dieu, après sa mort, le fait récompenser par des funérailles marquées par un faste sans pareil. Ce n'est pas une suite logique du dogme de la récompensation, mais la manifestation de la bonté divine. Le même modus agendi est le chroniste le pratique avec le roi Ozias. En principe, il fit ce qui est bien et juste aux yeux de Yahvé, son Dieu, mais il commit également quelques péchés. Il s'emporta contre le voyant Hanani et s'adressa non à Yahvé, mais au médecin lorsqu'il tomba malade. Mais le bilan global était tout de même positif. C'est pour cela que, étant mort d'une maladie des pieds, on l'étendit sur un lit tout rempli d'aromates, d'essences et d'onguents préparés, l'on fit pour lui un feu tout à fait grandiose. Dieu ne se repent donc pas, mais cela ne dit pas pour autant qu'il soit rigide, au contraire, il fait preuve de bonté, de générosité. Le dogme de la rétribution n'est tout de même pas tout chez lui. Qui est Dieu dans l'Ancien Testament? Quels sont ses traits de caractère les plus significatifs? Dans un article qui a fait sensation, Hermann Spiekermann répond à cette question en renvoyant à la Gnadenformel, formule de grâce, qui apparaît pour la première fois en Exode 34:6. Et je la cite dans la traduction de Second qui m'est chère. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui, et il, Yahvé ou Moïse, s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Vous tous connaissez ces expressions. Yahvé, Yahvé, El Rachum Vechanun, Er Chapaim Verav Chesed Vemet. Dans sa totalité, cette formule est attestée cette fois dans l'Ancien Testament, dans des contextes et des genres bien différents. En plus, plus de 20 attestations en reprennent des parties. De par ce fait, on peut dire à juste titre qu'il faut impérativement avoir recours à cette formule si l'on essaye de définir le centre théologique de l'Ancien Testament. Je ne serai pas plus précis. Or, les livres des chroniques font également partie des textes qui reprennent la formule de grâce. Dans une exhortation sous forme de lettre qu'il adresse aux Israélites de l'ancien royaume du Nord lors de la convocation pour la Pâque, le roi Josias dit en outre : Ne raidissez pas plus vos nuques comme l'ont fait vos pères. Soumettez-vous à Yahvé, venez à son sanctuaire qu'il a consacré pour toujours. Servez Yahvé, votre Dieu, et il détournera de vous son ardente colère. Veyashuv mikem Haron apo. Haron apo. Si vous revenez vraiment à Yahvé, vos frères et vos fils trouveront grâce devant vos conquérants. Ils reviendront en ce pays, car Yahvé est compatissant et miséricordieux. Chanun verachum. Chanun verachum. Si vous revenez à lui, il ne détournera pas de vous sa face. Ce passage est intéressant à plus d'un titre. Premièrement, il constate l'ardente colère dont est toujours frappé l'ancien royaume du Nord. Le chroniste ne dit pas que la colère de Yahvé s'est enflammée, il dit qu'elle est là, qu'elle est toujours là, présente. Nous avons déjà parlé de ça. Deuxièmement, il donne une définition assez précise à la formule de grâce. Dieu est compatissant et miséricordieux en permettant aux Israélites de revenir à lui. Notons en passant que le dogme de la rétribution est considérablement atténué par cette possibilité de se convertir offerte aux hommes de la part de Dieu. Cette possibilité de se convertir et la manière propre au chroniste de parler du repentir divin. Vous l'aurez remarqué, le chroniste ne reprend pas toutes les parties de la formule de grâce. Il omet notamment Erech Apayim, lent à la colère. La partie de la définition la plus anthropopathe est de la formule de grâce. Est-ce que c'est un hasard? Je ne le crois pas. Je vous ai rendu attentif au fait que cette formule jouissait d'une énorme popularité. Le chroniste ne pouvait pas la contourner, il se devait presque d'y répondre. Il le fait en donnant une interprétation très particulière de la formule de grâce. Je résume. Le chroniste connaît bien la colère divine, mais il s'agit en quelque sorte d'une colère froide, très réfléchie, très théologique. Elle est intégrée dans son dogme de la rétribution. Par contre, la notion du repentir divin lui est presque entièrement étrangère. Par contre, il tient au Seigneur qui est compatissant et miséricordieux. Ce Dieu donne la chance à l'homme de se repentir, de se convertir. Colère divine, repentir est humain. C'est en ce sens qu'il faut reformuler le thème du collecte par rapport au chroniste. Je vous remercie.